Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir.
L'esprit chevaleresque, premier épisode, l'interprétation de Georges Duby.
Du Moyen-Âge en général, il reste beaucoup de choses. Mais si vous voulez, parlons simplement de la chevalerie. Il y a encore des ordres de chevalerie. Moi, j'ai été chevalier de la Légion d'honneur, par exemple. Mais il y a des chevaliers de Malte qui sont encore des hommes qui ont pris un engagement et qui essayent de respecter une morale qui est assez proche de la morale des ordres religieux chevaleresques de l'époque. Il y a plus que cela dans notre langage, quand même, quand on parle de prouesse, par exemple, tout le monde comprend ce qu'on veut dire, et la prouesse, c'est ce que fait le preux, c'est-à-dire le bon chevalier. Et puis, il y a encore plus que ça, parce que quand on dit qu'un acte est chevaleresque, qu'est-ce que c'est qu'être chevaleresque? C'est d'abord être courageux, tenir bon en face de la vie, c'est aussi être large, c'est-à-dire ne pas être avare, ne pas se replier sur soi-même, s'ouvrir. C'est aussi pour les hommes traiter d'une certaine façon les femmes, courtoisement.
Vous croyez qu'il reste de l'amour courtois aujourd'hui?
Mais écoutez, s'il n'en reste pas grand-chose, il reste moins la nostalgie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Salut donc à Georges Duby, Légion d'honneur, disait-il, mais pas seulement. Collège de France, Académie française, et puis après ses grands succès à la télévision, le temps des cathédrales par exemple, la présidence de la SET. La SET, c'était la société pionnière qui a donné naissance plus tard à Arte. Salut à Georges Duby, dont c'est le centenaire de la naissance et dont la collection de la Pléiade publie dans quelques semaines un volume d'œuvres. Et bonjour à Martin Aurel, notre invité.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez fait vos études à Aix. Il me semble que Duby avait quelques rapports avec Aix. Et puis vous avez suivi les séminaires de Duby au Collège de France.
Oui, tout à fait. Georges Duby avait gardé sa maison derrière, au flanc nord de la montagne Sainte-Victoire, cher au cœur des Aixois, et il y passait la plupart du temps, à part l'hiver, qu'il consacrait à ses cours au Collège de France à Paris.
Donc et la maison s'appelait Beaurecueil.
Beaurecueil, tout à fait. Elle était près du château de Vauvenargues de Picasso, et Georges Duby a un côté Picasso de l'histoire médiévale, vous voyez. Picasso s'adaptait toujours aux modes, il était toujours à la page, mais il y avait quelque chose de sublime, il y avait un plus, et Georges Duby a su faire cela avec le marxisme, avec le structuralisme, ou avec l'histoire des mentalités. Il a toujours suivi la mode, mais il a donné sa touche personnelle de façon excellente.
Ah oui, avec un décalage chevaleresque par rapport à la mode. Et de Georges Duby, il faut dire aussi que son style, quel que soit le média qu'il utilisait, c'était l'éloquence pédagogique. Vous seriez d'accord avec ce mot?
Ah, c'était un grand orateur, on vient de l'entendre. Sa voix, déjà, est tout à fait exceptionnelle. Et puis, il avait ses dons de la rhétorique. Même ses livres, ils étaient largement fondés sur l'oralité. Il dictait ou il écrivait et très peu. Surtout, il biffait, il rebiffait. Il améliorait des manuscrits qui étaient partis souvent de sa voix, de sa parole et qui avaient été couchés par quelqu'un d'autre par écrit.
Alors, on va pas faire comme si la chevalerie se déroulait sur un fond chronologique toujours semblable. On va marquer les césures. Mais histoire de se remémorer les images habituelles, peut-être les clichés, Juliette Gou, qui réalise cette émission, m'a confié un volume avec des pages indéchirables, les petits docs. Voilà ce qui les dit traditionnellement de la chevalerie, pas seulement à l'usage des enfants de 3 à 6 ans d'aujourd'hui, mais des adultes des années 1960. C'est un film Gaumont.
En ce jour de l'Ascension, depuis l'aube, une grande agitation s'était emparée du château. Dans les salles, on prépare la fête qui suivra la cérémonie de l'adoubement. Monseigneur Gilles, seigneur de Clermont, le seigneur de Robert, procède à l'adoubement. Soyez braves, Monseigneur Robert. Soyez dignes de vos ancêtres. Honorez la chevalerie, donnez aux pauvres. Aimez Dieu. Ma vie et ma loyauté sont au service de Dieu et de mon maître.
Alors ça, c'est la chevalerie institutionnalisée, telle qu'on la décrira avec Duby à partir du XIIe siècle. Mais nous, on va commencer au XIe. Vous entendez toutes ces recommandations ? Aimer Dieu, donner aux pauvres. La société du XIe siècle, elle est structurée par un imaginaire, elle est complètement inégalitaire. L'ordre, il est voulu par Dieu. Le désordre, si on voulait le sommer, ce serait le diable qui travaillerait à travers nous. Elle est divisée en trois, cette société.
Oui, c'est le sens de l'ouvrage de Georges Duby de 1978, « Les trois ordres » ou « L'imaginaire du féodalisme ». Il travaille dans la longue durée. Pourquoi ce thème que Georges Dumézil voit chez les peuples très très anciens, indo-européens, préhistoriques, se retrouve d'une façon si résurgente, si inattendue, autour de l'an 1000. Et pourquoi elle va triompher jusqu'à la Révolution française qui abolit les trois États, les trois ordres au Parlement, aux États généraux. Donc vous voyez, c'est un thème qui lui tenait à cœur et c'est une projection de la stratification sociale telle que pouvaient l'avoir les clercs, les intellectuels du XIe, du XIIe siècle. En l'occurrence, Gérard, évêque de Cambrai, reprend à profusion, à plaisir, à souhait, ces trois ordres, donc ceux qui prient, premier ordre, ceux qui font la guerre, deuxième ordre, les chevaliers. Mais Georges Duby n'aime pas beaucoup les chevaliers au début. Le terme qu'il utilise en 78, c'est davantage guerrier, aristocratie guerrière, vous voyez. Après, oui, il y a un gros chapitre pour le XIIe siècle, mais comme vous l'avez bien fait remarquer, voilà.
Pour l'instant, on reste en l'an 1000.
Il reste, exactement. Et puis, il y a les paysans, bien sûr.
Les paysans.
Les tiers états.
Laboratores, c'est les gens qui puent, qui suent. Ainsi les décrit Georges Duby, et on compte pas beaucoup sur eux. Les oratores, ceux qui prient, les évêques, dans leurs ateliers, qu'ils décrit longuement avec la fabrique des décrets, qui sont pris dans ces lieux de réflexion, les oratores essayent de juguler la violence des guerriers, des bellatores.
Oui, c'est juste, la violence a peu de façon d'être arrêtée dans cette société, c'est la force des armes. Or, les évêques, eux, ont une arme redoutable, ils ont entre leurs mains le salut éternel des guerriers, de ceux qu'on appellera plus tard les chevaliers. Et ils peuvent leur dire, je t'excommunie, je te mets au banc de l'Église, et tout le monde le sait, extra ecclesia nulla salus, il n'y a point de salut éternel hors de l'Église.
Parce que les guerriers, en fait, ce sont, bon, les plus redoutables, les jeunes, les juvénesses qui sortent des châteaux. Alors, il y a des centaines de châteaux juchés sur des mottes, et puis il y a des essaims de jeunes qui sortent par les portes et qui rêvent d'aventures, de pillages, de viols, d'exploits divers.
Oui, tout à fait. C'est le très bel article de Georges Duby dans les Annales, dans les années 1960, les juvénesses, hein, les jeunes. Il aimait juvénesses parce que il y a une ambiguïté. Un jeune, ce n'est pas seulement une classe d'âge à l'époque, mais c'est aussi un célibataire. Un célibataire qui n'a donc pas de charge de famille et qui aussi peut risquer joyeusement sa vie parce que il n'a pas des enfants à maintenir. Ils ont un côté, sous la plume de Georges Duby, gangster, hein, côté bande violente de jeunes qui se retrouvent pour piller le bas pays, pour sortir du château. Il y a un côté initiatique aussi dans ces bandes guerrières. Hein. On va, il y a un marchand qui passe, ben on va lui prendre son argent. Après tout, nous appartenons à l'aristocratie, nous avons du sang noble. Cet homme-là, il s'est enrichi en jouant sur de l'argent, en faisant de l'usure, ou en pratiquant de prix tout à fait exorbitants sur des produits qu'il achetait très très bas. Voilà, c'est ça.
Le prêtre lui-même n'est pas exempt d'enlèvement, peut-être. Ce qui fait que les oratores, les évêques dont vous parlez, les abbés des grands monastères, le pape, au sommet, pendant tout le long du XIe siècle, vont tenter d'organiser la guerre. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. On se souvient un peu de la paix de Dieu, de la trêve de Dieu. Il s'agit d'interdire la guerre dans des endroits cruciaux, je ne sais pas, un pont, ou certains jours, d'abord le dimanche, et puis ensuite la veille du dimanche, et puis la veille du samedi.
Oui, peine d'excommunication pour celui qui s'attaquerait aux femmes, aux enfants, aux clercs, aux prêtres, donc qui ne portent pas d'armes, hein, ceux qui sont désarmés. C'est cela aussi la paix de Dieu, plus des périodes, vous l'avez dit, c'est la trêve de Dieu. Donc le jeudi, par respect envers l'Eucharistie, on ne peut pas faire la guerre. Le vendredi, n'en parlons pas, la crucifixion. Puis le dimanche, a fortiori, la résurrection. Bon, il reste le samedi, on fait le pont, donc la trêve de Dieu. Pas de guerre la moitié de la semaine, plus le carême, plus l'Avent, ça fait très très peu de jours.
Et puis la violence, on peut la diriger vers l'extérieur, laver de ses impuretés. Et c'est la croisade, la paix de Dieu, la trêve de Dieu, c'est le milieu du XIe siècle. Le premier appel à la croisade, c'est la fin du XIe siècle. Et Dieu sait si ça va avoir de l'importance dans l'institutionnalisation de la chevalerie. Alors Georges Duby en arrive au XIIe siècle, dont il explique que c'est une époque pleine, où les richesses circulent davantage, où les échanges sont facilités, où le roi commence avec sa cour à avoir davantage d'importance, où les bourgeois pourraient faire de la concurrence aux guerriers. Et c'est pour ça que, dans l'aristocratie qui se constitue, on commence à dessiner une culture de distinction, la chevalerie.
Oui, Georges Duby était très sensible, parce qu'au début, il a écrit des ouvrages d'histoire économique, en particulier la seigneurie rurale et la vie des campagnes en Occident médiéval. Il était très sensible au pouvoir d'achat, on dirait de nos jours, de l'aristocratie. Cette aristocratie qui veut paraître pour ces gens la réputation, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes est capitale. Or, qui ont ces beaux objets, les bijoux, les pierres précieuses, les tissus superbes des soieries que l'on peut étaler sur soi, c'est la bourgeoisie qui pratique le commerce à long cours.
Les chevaliers deviennent des lettrés, je reprends le titre d'un de vos livres, Martin Aurel. Dans les châteaux, le soir, on se raconte des histoires qui mettent en scène les personnages qui les écoutent. Il y a même des joutes verbales. Voici Anne Azéma qui interprète un chant anonyme. Le tournoi de Chauvency, nous sommes au XIIIe siècle, c'est une joute d'amour en Lorraine médiévale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'esprit chevaleresque, c'est le premier épisode d'une série et nous parlons aujourd'hui des travaux sur ce sujet de Georges Duby, dont les œuvres vont bientôt paraître dans quelques semaines dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est un privilège que n'avait connu aucun autre historien contemporain jusqu'à ce jour. Martin Aurel va-t-il sur ce chemin ? Vous avez publié, vous, Martin Aurel, La légende du roi Arthur, il y a quelque temps aux éditions Perrin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse peut-être un peu provocatrice de Georges Duby, bon, au fond, la littérature courtoise, les belles dames, les grands poèmes, la légende arthurienne, ça n'a jamais existé dans la réalité, l'amour courtois n'existe que dans la littérature.
Oui, je pense qu'il exagérait sans doute pour prendre des distances à l'égard de toute cette historiographie positiviste qui interprétait d'une façon très proche de la réalité, entre guillemets, ses poèmes, ses chansons. De mon côté, je suis plus sensible aux présupposés théoriques de ce qu'on appelle l'école de Constance, qui parle d'horizon d'expectative. Les auditeurs de ces chansons, parce qu'on les entendait, attendaient quelque chose. Et on leur servait. Et puis, il y avait aussi des effets de réel. Ce qui les intéressait aussi, c'est de voir leur quotidien dans ces chansons. Et nécessairement, ces poèmes, ces chansons les influençaient. C'est comme dans la société actuelle, les sitcoms, les séries que tout le monde regarde ont une influence et sur les modes vestimentaires, alimentaires, mais aussi sur les comportements des uns et des autres. Et puis, il y a une sorte d'aller-retour, de feedback, à partir de ce que les gens, que le public entend, on rend à l'auteur ce que on lui resserre, ce qu'il doit dire pour plaire. Il y a donc un aller-retour. D'ailleurs, c'est dialogué, ces chansons. Le public intervient dans ces veillées autour du coin du feu. Les nobles qui les écoutent, les demoiselles aussi, les dames de la haute société, interrompent souvent le jongleur, ils commentent, ils font des incises, et tout cela réapparaît ensuite dans l'art du troubadour ou du jongleur. Donc il y a un aller-retour entre la réalité et la fiction dont il faut tenir désormais compte.
Ces dames étaient un peu abstraites, expliquait Duby.
Ah, c'est des dames en chair et en os, et elles ont aussi un ascendant, peut-être pas un ascendant visible, plus au creux de l'oreiller de leur mari, mais ces femmes peuvent donner des normes, des pratiques aux gens de façon de se comporter plus raffinés. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on ne parle que très rarement, il n'y a qu'une seule occurrence chez un troubadour, de amour courtois. On parle d'amour fin. Donc il y a cette idée,
fin amour,
voilà, de raffinement. Il faut affiner, il faut perfectionner, civiliser les mœurs de ces nobles.
Mais
et
attendez,
c'est les femmes qui s'en occupent.
Attendez, vous expliquez que la dame murmure au creux de l'oreiller à son puissant époux, le vieux seigneur, alors que les chevaliers font tout pour entrer dans le lit de la dame. Alors, Georges Duby, il allait plus loin. Il expliquait ses chansons courtoises, elles étaient là en fait pour valoriser le seigneur, à qui il était dit et répété que sa dame méritait l'amour le plus pur, ou elles étaient faites pour les pères, P-A-I-R-S, pour les compagnons, pour leur montrer qu'on était doué, qu'on était viril.
Oui, tout à fait. C'est un de ses derniers livres, Mâle Moyen-Âge. J'aurais aimé en discuter avec lui, mais il est parti trop tôt. Je pense qu'il y a malgré tout une action de la femme qui est indéniable. Ces femmes n'étaient pas des imbéciles. Elles savaient qu'elles pouvaient avoir de l'influence sur la société. Et même si les hommes s'amusaient entre eux en parlant d'amour courtois, ça les touchait profondément. Ces publics est très souvent féminin qui écoutent ces chansons d'amour. On a même des troubadourites, on a des femmes troubadours. On a la première poétesse en langue française, Marie de France, écrit dès le début du XIIe siècle en Angleterre, en français. Donc non, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus le côté masculin du Moyen-Âge.
Bien, alors, contestation du mâle Moyen-Âge de Duby. Duby qui allait jusqu'à dire au fond dans les tournois, parce que jusqu'ici on a parlé des joutes poétiques, mais maintenant ouvrons le chapitre du tournoi. Dans les tournois, est-ce qu'il y avait autant de femmes qui regardaient les tournois qu'on l'a répété ?
Liechtenstein a battu Roger Lord Mortimer, une lance à zéro.
Le tournoi, c'était pas ça du tout. Le tournoi, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, rassemblait des quantités de combattants dans le plus réussi et qui se tenait à Lagny, en Champagne, tout près de Paris. Il y avait, me semble-t-il, environ 10 000 combattants. Il y avait 3 000 chevaliers et ceux qui les accompagnaient, les suiveurs, les serveurs, les écuyers. Et alors là, c'était un jeu d'équipe, n'est-ce pas ? On se rencontrait, il y avait l'équipe des Français, il y avait l'équipe des Normands, l'équipe des Angevins, l'équipe des Bourguignons, l'équipe des Anglais qui était dirigée par Guillaume le Maréchal. Et elle se regroupait en deux camps. Et les deux camps se lançaient l'un contre l'autre, non pas sur un terrain délimité, mais dans un immense espace libre, avec beaucoup d'accidents, et on utilisait tous ces accidents. On utilisait les petits bois pour se cacher, les petits hameaux pour tendre des embuscades, et l'enjeu, c'était évidemment pour l'un des camps de faire fuir l'autre, mais à cette occasion, c'était surtout pour chacun des combattants de gagner, c'est-à-dire de s'emparer des armes de l'adversaire, des chevaux de l'adversaire qui valaient très cher, et des adversaires eux-mêmes, de les faire prisonniers et de les mettre à rançon.
Georges Duby lui-même, on retiendra le nom de Guillaume le Maréchal, on y reviendra tout à l'heure, inconnu de l'histoire qui l'a valorisé. Je retiendrai un nom, nos propres, là, Lagny, la Champagne. Georges Duby, il compare le tournoi aux foires, c'est-à-dire que une fois que les chevaliers avaient rançonné, capturé, volé, ils échangeaient le soir, avec d'autres, et c'était, dit Duby, le seul moyen pour eux de gagner rapidement de l'argent à la façon des marchands des foires.
Oui, c'est exact. Et en fait, Georges Duby emprunte consciemment l'expression aux ecclésiastiques, un concile qui a eu lieu dans le Latran dans les années 1130, où il est question de foire exécrable pour condamner les tournois. Il y a mort d'homme très souvent dans les tournois, on vient de le voir. Ce sont des mêlées de combattants, ce sont des groupes.
Clans, c'est des meutes.
Voilà, des meutes qui s'affrontent, hein, du moins dans un premier temps. Ensuite, il y aura des duels individuels, des joutes plus qui suivent des règlements, des lois, donc il y aura moins de morts. Mais au début, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Duby avait tout à fait raison de le dire. Hein. Et donc, on fait du commerce, oui, c'est vrai, on rançonne, on peut gagner de l'argent. Les femmes sont présentes malgré tout, et Georges Duby le savait, puisque c'était un grand lecteur de Guillaume le Maréchal. Et Guillaume, quand il était jeune, brillait par sa voix. Il chantait très bien dans les veillées aristocratiques, et il pouvait interpréter ses chansons, nous dit lui-même dans ses mémoires, ou Jean Le Trouvert, qui les a couchées par écrit. Il pouvait donc briller devant une société féminine.
Alors, Guillaume le Maréchal, j'ai dit inconnu de l'histoire, parce que parfois les livres de Duby, c'est d'abord des émissions de télé, ou en l'occurrence, une émission de radio sur France Culture de Montalbetti, dans la série Les Inconnus de l'Histoire. C'est un monsieur qui va vivre très vieux, et dont on connaît la vie, alors qu'il est sujet du roi d'Angleterre, par un très beau poème en français.
Absolument. Il faut savoir que l'aristocratie anglaise parle bien sûr le français, puisque les anglo-saxons ont été supprimés dans la noblesse après 1066, après la conquête normande, et que c'est une langue qui peut s'écrire. Ailleurs, on écrit en latin au XIIe siècle. Dans la Grande-Bretagne, en Angleterre, on utilise le français parce que c'est reste une langue élitaire, parlée seulement par ceux qui dominent la société, les maîtres de la société.
Alors, petit, à 7-8 ans, une fois qu'on a 7-8 ans, on a des chances de survivre longtemps. Il est donné par son père à plus puissants seigneurs que ceux de sa famille, et puis il va progresser lentement, il va procéder à beaucoup de tournois, il va finir par être adoubé. Le XIIe siècle, c'est l'institutionnalisation de l'adoubement. Mais moi, je suis passionné par la question des femmes au Moyen-Âge. Son problème à Guillaume le Maréchal, c'est d'avoir une femme.
Oui, tout à fait. Il appartient à une famille de la petite noblesse, même si son oncle qui l'a formé est un grand personnage, hein, de la famille de Trancarville, famille normande. Mais il y a aussi son protecteur qui appartient à la famille de Salisbury, Patrick, qui a été tué par les Lusignan près de Poitiers. Mais lui-même, il sort un peu du ruisseau, ou en tout cas, c'est un cadet. Et donc, il cherche une proie, une femme riche, qui lui donne un patrimoine et réussira très très bien, puisqu'à la fin...
Attendez, il réussira très très bien. Oui. Il va finir par puiser dans le vivier du suzerain. Mais à 50 ans, il va se marier.
Oui, 50 ans. Jean lui donne la petite fille du roi de Dublin, enfin du Leinster. C'est extraordinaire. C'est Haïfa. C'est une grande. Vous avez la moitié de l'Irlande en apanage. C'est quand même pas mal. Enfin, pas pour les Irlandais, les pauvres qui ont dû supporter les Anglais pendant des siècles. Mais pour Guillaume le Maréchal, c'était un très très bon coup.
Et alors, Duby explique qu'une fois qu'il est marié, bon, il va être régent du roi d'Angleterre, Jean sans terre. Mais son enthousiasme pour défendre le suzerain diminue, parce que pour lui, l'important c'est de gérer ses biens et de garder sa femme.
Oui, mais en même temps, il a joué un rôle très important lors de l'invasion du prince Louis, le futur Louis VIII de l'Angleterre, où il a été véritablement une des personnes qui a réussi à galvaniser la noblesse anglaise qui en avait marre de Jean sans terre. Mais Dieu merci, Jean sans terre a une idée géniale. La seule bonne de son règne, c'est de mourir tôt. Et donc, au bon moment, et c'est là où tout le monde a rallié son fils, le jeune Henri III.
Et Guillaume le Maréchal, régent, meurt, lui, tardivement. On va entendre une dernière fois la voix de Duby. Duby travaillait souvent sur commande. Donc, on lui a commandé un livre sur Bouvines. C'est Pierre Nora qui le lui a commandé. Il l'a fait. C'est Montalbetti qui lui commande pour France Culture une émission sur Guillaume le Maréchal, qui n'a pas connu Bouvines, qui est mort un peu après, mais dont Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvines, disait qu'il était la fine fleur de la chevalerie, le récit de la mort de Guillaume par Georges Duby.
Le maréchal, qui est un homme très vieux pour son âge, il ne sait pas exactement son âge, il a presque 80 ans, il vient tout juste de cesser de monter à cheval, il se sent mal et il se fait porter dans l'un de ses manoirs parce qu'il veut mourir chez lui. Et alors commence une longue suite de dépouillements successifs. Il commence par abandonner ses propres charges. Et puis, il passe à son privé et il distribue entre ses enfants son héritage, en terre, en droit. Et c'est à ce moment-là qu'il pense à son âme. Mais cette piété va de pair avec un refus du pouvoir que peuvent exercer sur les chevaliers et les gens d'église, n'est-ce pas ? Il dit à un moment, ces prêtres, ils nous rasent de trop près, dit-il, c'est magnifique, n'est-ce pas ? Ils nous tondent, ils veulent tout nous prendre, mais quoi ? On lui dit, mais il faut que tu, au dernier moment, il faut absolument que tu sauves ton âme. On lui dit, ta garde-robe est encore pleine de robes splendides, va les vendre, tu auras de l'argent, tu pourras les distribuer aux églises. Mais il dit non, ces robes-là, la Pentecôte est proche, c'est le jour où on distribue au chevalier ou le maître ou le patron ou le seigneur distribue à ses hommes de quoi se vêtir et paraître autour de lui, qu'on aille chercher ses robes et qu'on les distribue. Voilà.
Les bellatores, les guerriers ont du mal à admettre le rôle premier des oratores, les prêtres qui nous rasent de trop près.
Oui, Georges Duby n'aimait pas la richesse de l'église médiévale. En même temps, il avait une grande sensibilité pour la spiritualité de certains de ses clercs. Tout ce qu'il a écrit sur Saint Bernard est sublime. Donc je pense que là encore, c'est la richesse de sa pensée. On ne peut pas l'étiqueter.
Alors les œuvres de Duby, c'est dans la Pléiade, vos livres je les cite en vrac, mais on peut se reporter à notre site, notamment pour nous podcaster, Le Chevalier Lettré, Les Noces du Comte, L'Empire Plantagenet et L'Épée de Guillaume le Maréchal. Je dis ça parce que vous préparez un livre sur l'épée. L'épée.
Ah, c'est essentiel pour les nobles du Moyen-Âge. Regardez Roland, les grandes déclarations d'amour qu'il fait à Durandal alors qu'il est en train de mourir. Il se souvient pas d'eau de sa fiancée, à peine de Dieu, trois vers pour liquider son mea culpa. C'est fascinant le rapport intime que ces chevaliers avaient envers l'épée qu'ils avaient reçue le jour de l'adoubement, très souvent qui venait de leurs ancêtres, c'est elle qui était la raison d'être de leur pouvoir, de leur domination sociale, mais aussi d'un imaginaire, d'un nombre de mythes exceptionnels qu'elles véhiculaient. Elles avaient une âme, ces épées.
Donc vous êtes arrivé à Récipiscence, vous êtes d'accord avec Duby quand il dit que la femme est moins importante que l'épée ?
Peut-être.
Merci à vous Martin Aurel et demain nous poursuivrons en parlant des samouraïs. Cette émission a été préparée par Aurore Jouvenel avec Frédéric Martin et Franck Olivard et Elinka Negulesco à technique. Aujourd'hui c'est Maxime Ingrand et la réalisation c'était Juliette Gou et chez vous Fabrice Drouel dans un instant. La trace d'un film.
Oui, et la trace surtout d'un itinéraire. L'itinéraire d'une actrice marocaine qui joue une prostituée marocaine, ce qu'une partie de la société marocaine ne veut pas admettre. Et pourtant, c'est la réalité.
Et ce film a eu beaucoup de difficultés à être montré au Maroc.
Pour toutes ces raisons-là.
Il est inutile de le dire.